Le texte dont on va parler ce soir se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Dans les Bibles bleues qui sont devant vous, c'est page 944. Donc, page 944, évangile de Matthieu, chapitre 7, et je vais lire les versets 21 à 29. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient ébahies de son enseignement, car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme leurs scribes.
Merci beaucoup, Marion. Ce soir, nous terminons la série que nous avons entreprise il y a quelques semaines sur le Sermon sur la montagne, plus précisément la deuxième partie du Sermon sur la montagne, puisque l'an dernier, on avait vu la première partie. Et donc, nous arrivons à l'endroit où Jésus va clore cet enseignement qui occupe donc les chapitres 5 à 7 de l'Évangile de Matthieu. Quelquefois, c'est dans les circonstances exceptionnelles qu'on découvre la réalité derrière les apparences. Alors, je voudrais vous poser une question. Qui est cet homme? Quelqu'un sait? Personne ne sait qui c'est? Madoff, voilà. Bernard Madoff, effectivement. Pendant des décennies, Bernard Madoff, Bernie pour les intimes, était une référence du monde de la finance internationale. Il était gérant d'une société d'investissement. Et certaines des plus grandes fortunes du monde lui ont confié leur argent en espérant en retirer de grands bénéfices. Il y a aussi des gens moins fortunés qui ont fourni leur argent, mais voilà, beaucoup de gens en tout cas. Et pendant longtemps, on a cru que ça marchait. On se disait, c'est extraordinaire les bénéfices qu'il arrive à retirer. Mais en l'espace de quelques jours, tout s'est écroulé. Et on s'est rendu compte que Madoff était coupable d'une escroquerie gigantesque qui avait duré 48 ans, et qui a porté sur près de 65 milliards de dollars. En fait, pendant des années, il a rémunéré les investissements de ses anciens clients en utilisant pour ça l'apport des nouveaux clients. Donc quand on a plein de nouveaux clients, ça marche. Et ça a marché pendant longtemps. Mais un jour, les nouveaux apports n'ont plus suffi à couvrir les investissements des anciens clients, à cause de la crise qu'il y avait par ailleurs, etc. Et tout s'est écroulé. En fait, Madoff ne créait pas de l'argent, simplement il transférait de l'argent d'un côté à l'autre. Au bout d'un moment, ça s'est écroulé. On s'est rendu compte qu'il avait réussi à maintenir l'illusion pendant 48 ans, et puis, paf, tout d'un coup, il n'y a plus rien. On se rend compte que derrière ça, c'était le néant. L'affaire Madoff est un exemple assez frappant d'apparence trompeuse, et on pourrait en trouver d'autres, bien sûr. Dans le texte de ce soir, Jésus, lui, souligne aussi le caractère souvent trompeur des apparences et la nécessité d'avoir, au-delà de ce qu'on peut laisser apparaître, des vies authentiquement ancrées en lui. Et en faisant cela, on va voir qu'il dit en fait quelque chose de saisissant. Il se présente comme l'unique source d'assurance et de sécurité dans ce monde. Jésus nous présente deux dangers donc et une solution Je vais traiter en fait les versets 21 à 27. Hein, versets 28 et 29 sont une conclusion de l'ensemble du discours du sermon sur la montagne. Mais je vais m'attacher aux versets 21 à 27 avec trois points. Donc le danger, tout d'abord, d'une adhésion superficielle, puis le danger d'une écoute stérile, et enfin, ce sera aussi ma conclusion, la relation avec Jésus, seule vraie sécurité. Premièrement, donc, le danger d'une adhésion superficielle. On a peut-être tendance à oublier que Jésus, pendant les quelques années de son ministère public dans la Palestine du 1er siècle, a connu une très grande renommée. Les quatre évangiles nous disent, par exemple, que Jésus a parfois eu des foules de plusieurs milliers de personnes qui étaient là pour l'écouter. Par exemple, dans l'épisode de la multiplication des pains, qui nous est rapporté par les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on nous dit qu'il y avait 5000 hommes, c'est-à-dire sans compter les femmes et les enfants. C'était une façon souvent de compter à l'époque. Ce qui implique qu'au minimum, il y avait sans doute 10 000 à 15 000 personnes qui étaient présentes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir 80 000 personnes dans un stade pour un concert de U2, donc ça nous surprend peut-être un peu moins. Mais à l'échelle de l'époque, et quand on pense à la population de la Galilée et de la Judée à l'époque, c'était incomparable, c'était énorme. Quand on pense qu'il n'y avait même pas Twitter et Facebook pour annoncer les événements à l'avance, c'était absolument saisissant. Il faut avoir en tête ce contexte pour bien comprendre, je pense, ce que Jésus nous dit dans notre texte. Parce que Jésus, forcément, par conséquent, a eu pas mal de sympathisants. Des personnes qui étaient prêtes à venir l'écouter avec plaisir et à assister aux signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus met son auditoire en garde. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans le vocabulaire qu'utilise volontiers Matthieu dans son évangile, le royaume des cieux, en fait, c'est synonyme de ce qu'on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament, le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est en fait un monde nouveau, un monde recréé, que Dieu s'apprête à établir, qui s'apprête à manifester sous nos yeux, mais que Jésus a inauguré par sa présence. Jésus est venu apporter le fondement et l'inauguration de ce monde à venir. Et on pourrait résumer l'enseignement de Jésus en disant qu'il appelle les hommes et les femmes, que nous sommes, à renoncer à leur vie sans Dieu pour connaître une vie nouvelle avec Dieu. Mais cette vie nouvelle, elle n'est pas pour les sympathisants, pour les simples sympathisants, elle n'est pas déterminée juste par les apparences. Jésus savait qu'il y avait dans son auditoire des personnes qui pouvaient s'enthousiasmer pour tout ce qu'il disait, qui n'hésitaient pas à l'appeler « Seigneur ». Alors, « Seigneur », c'est un mot qui pouvait vouloir dire plusieurs choses à l'époque. Dans certains contextes, ça pouvait dire simplement « Maître », voilà, quelqu'un qu'on estime. Mais ça pouvait aussi, c'est aussi le mot qu'on utilisait pour parler de Dieu. Alors, sans doute que certains l'utilisaient un peu entre les deux, comme quelqu'un de très estimable, « Seigneur ». Il le considérait comme un enseignant qui faisait autorité, comme le dit d'ailleurs la fin du texte. Mais certains ne comprenaient pas forcément que Jésus les appelait à beaucoup plus que de simplement être d'accord avec lui, en gros, sur certains points, ou d'être enthousiasmé par son enseignement. Au verset 23, Jésus dit qu'un jour, il devra dire à ces personnes, certaines personnes, qu'il ne les a jamais connus. Il y avait une adhésion peut-être, mais il n'y avait pas de relation. Or, la preuve qu'une relation authentique existe, nous dit Jésus, c'est qu'on fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Verset 21. Alors, quelle est-elle, cette volonté? Tout au long de ce sermon sur la montagne, on a vu que Jésus appelle ses auditeurs donc à une vie transformée, une vie réconciliée avec Dieu, dans laquelle on vit dans une relation personnelle, directe, intime avec notre Créateur. C'est ce qu'on a célébré aussi en chantant. Et Jésus ne cesse de mettre en garde ses auditeurs contre une adhésion superficielle qui n'implique pas un vrai changement de vie. Et ce message n'a vraiment rien perdu de son actualité. Aujourd'hui, on a tendance à considérer qu'il suffit d'être, en gros, pour quelque chose, un sympathisant d'une cause, pour en être vraiment partie prenante. On a parfois oublié un peu ce que ça veut dire de s'engager vraiment avec tout ce qu'on est, tout son être. On signe une pétition sur Internet, hein, quelques clics, c'est fait, on rejoint un groupe sur Facebook, on va manifester peut-être ici ou là. Et à vrai dire, on observe un peu le même phénomène dans les églises. Et peut-être que ce soir, il y a parmi nous des sympathisants de Jésus Peut-être que vous trouvez son enseignement intéressant. Peut-être que pour certains, vous avez grandi dans une famille chrétienne et vous n'avez jamais vraiment contesté ce qu'on vous a enseigné, mais vous ne vous êtes peut-être pas engagé de façon vraiment personnelle pour Jésus. Ou peut-être que même sans venir d'un arrière-plan chrétien, simplement, vous trouvez intéressant ces idées. Peut-être même que vous venez tous les dimanches à la RDS, parce que l'ambiance est sympathique, on entend éventuellement des choses intéressantes parfois, et ça vous permet de cocher la case spiritualité dans votre vie. Alors je parle de façon un peu abrupte, certainement pas pour culpabiliser qui que ce soit, parce qu'on est très content que ces personnes qui ne savent pas encore se positionner soient là. Et c'est pour ça, entre autres, que la RDS existe. Et nous sommes là pour avancer ensemble. Mais il faut qu'on comprenne bien cette mise en garde solennelle de Jésus. Verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors là, d'emblée, on se dit, « Oula, je ne me reconnais pas trop dans cette description. » Jamais chassé de démons, parler en prophète, je ne suis pas sûr, sans doute pas, et je suis à peu près sûr d'avoir jamais fait de miracle. C'est ce que pensent peut-être beaucoup d'entre nous. Mais justement, si même des personnes ayant eu des expériences spirituelles aussi fortes que celles que Jésus semble décrire ici, si même ces personnes-là peuvent en fait, dans certains cas, ne pas avoir de relation authentique avec lui, alors à plus forte raison, quelqu'un qui se contente de sympathiser avec l'enseignement de Jésus, de ne pas s'opposer, de se laisser un peu porter par la vague, à plus forte raison, une telle personne peut vivre dans l'illusion d'être un disciple de Jésus, alors qu'elle n'est que sympathisante. Et c'est ça ce que je voudrais vraiment souligner ce soir. Il ne s'agit pas de condamner et de juger, il s'agit de dire, ne confondons pas sympathisants et disciples. Et si nous ne sommes que sympathisants, comprenons que Jésus nous appelle à beaucoup plus que cela. Le problème posé par une telle attitude, c'est que d'abord, si on se contente d'adhérer à l'enseignement de Jésus, ça laisse entendre qu'on ne croit pas vraiment en lui. On se contente d'apprécier ce qu'il dit, sans s'attacher vraiment à qui il est et qui il affirme être. Or, pour Jésus, dans la Bible, on voit que ces deux choses sont inséparables. On ne peut pas d'un côté dire qu'on apprécie ce qu'il dit, sans reconnaître qu'il est celui qu'il affirme être. C'est-à-dire le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Pourtant, beaucoup disent « Ah oui, Jésus, je trouve formidable tout ce qu'il a dit. » Mais bon, Fils de Dieu, Sauveur du monde, c'est peut-être un petit peu pousser le bouchon un petit peu loin. Dans une citation qui est assez connue, qu'on a même déjà citée ici, je pense, tirée de son livre « Les fondements du christianisme », l'auteur anglais C.S. Lewis souligne ce point. Et on va avoir la... j'espère que j'ai mis la... Oui, voilà, ça, j'ai eu un doute tout d'un coup. Cette citation de C.S. Lewis. « Un homme ordinaire qui aurait dit le genre de choses que Jésus a dites, se présentant par exemple comme le Fils de Dieu, des choses comme ça, ne serait pas reconnu comme un grand enseignant moral. Il serait plutôt un lunatique, semblable à un homme qui prétendrait être un œuf poché, c'est traduit de l'anglais, ou bien il serait le Satan de l'enfer. À vous de choisir. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, ou bien il était un homme fou, ou bien pire encore. Vous pouvez le traiter de fou, vous pouvez lui cracher dessus et le tuer en tant que démon, ou vous pouvez tomber à ses pieds et le reconnaître comme Seigneur et Dieu. Mais n'en venons pas à un non-sens en le définissant comme un grand enseignant humain. Il ne nous a pas laissé cette option, et il n'en avait pas l'intention. » Donc on voit que pour C.S. Lewis, c'est tout ou rien. On peut rejeter en bloc l'enseignement de Jésus, à nos risques et périls, certes, ou bien on peut tomber à ses pieds et le reconnaître comme Seigneur, mais on ne peut pas faire dans la demi-mesure. Le deuxième problème que pose une adhésion superficielle à Jésus-Christ, c'est qu'un jour, elle aura des conséquences éternelles. Et la Bible enseigne qu'en tant que créature, nous aurons un jour à rendre des comptes à celui qui nous a créés. Et le Nouveau Testament nous révèle que c'est Jésus-Christ lui-même qui a été désigné comme juge suprême de l'humanité. Et le verset 23 nous livre le verdict de Jésus à l'encontre de ceux qui ont parlé en son nom, qui ont fait comme s'ils le connaissaient alors même qu'ils ne le connaissaient pas. « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Un verdict sans appel. Preuve qu'on peut s'efforcer de vivre une vie morale, on peut même adhérer en théorie à l'enseignement de Jésus, mais si on ne le connaît pas réellement, si on ne lui a pas confié sa vie, En fait, on reste livré à soi-même, livré à sa tendance à faire le mal, tendance naturelle qui est en nous, à ne pas tenir compte de la volonté de Dieu. Donc, assurons-nous donc que nous avons compris qui est Jésus. J'y reviendrai en conclusion. Et ne restons pas de simples sympathisants, parce que l'enjeu, là, c'est l'éternité. Le deuxième danger face auquel Jésus met en garde, c'est le danger d'une écoute stérile. Alors, on est proche du premier point, mais il y a une nuance quand même, que je vais essayer de faire ressortir. Le danger d'une écoute stérile. Donc, on vient de voir que, d'après Jésus, on peut l'appeler Seigneur, on peut adhérer en surface à ce qu'il enseigne, sans pour autant le connaître réellement. Mais Jésus souligne aussi qu'on peut entendre ses paroles sans que ça fasse d'effet, sans comprendre que ça implique de notre part un changement de notre vie. Et pour illustrer cette mise en garde, eh bien, il a recours à une image, et c'est une parabole qui est assez connue, hein, pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans les églises. C'est une des premières histoires sans doute que vous avez apprises à l'école du dimanche, au catéchisme. C'est une parabole bien connue. D'un côté, on a un homme qui construit sa maison sur un roc, sur un rocher. Et donc, le jour de la tempête, eh bien, la pluie, les torrents, le vent s'abattent sur cette maison. Mais parce que ses fondements sont ancrés dans un roc, et donc sont fermement protégés, la maison tient bon. De l'autre côté, un homme qui a construit sa maison sur le sable. Alors, on peut imaginer une belle maison, hein, magnifique, mais construite, par exemple, sur pilotis, hein, ou vraiment sur le sable. Et le jour de la tempête, nous dit Jésus, eh bien, la pluie, les torrents et le vent s'abattent sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. L'image est simple. Et l'image est tellement simple qu'on pourrait ne pas y faire trop attention. Et du coup, on pourrait se retrouver exactement dans le cas de figure que l'image dénonce. C'est-à-dire, on pourrait écouter l'enseignement de Jésus d'une oreille et puis le laisser sortir de l'autre oreille. Je pense que si on donnait l'occasion à chaque adulte parisien de lire l'ensemble de l'enseignement de Jésus. Ça serait formidable déjà. Si tous les Parisiens pouvaient lire tout ce que Jésus a dit, on aurait déjà, je pense, beaucoup de vies transformées. Mais on aurait quand même toute une gamme de réponses. Alors certains diraient, oh, c'est n'importe quoi. J'ai pas le temps pour ces bondieuseries. D'autres diraient peut-être, oh, quelle splendeur dans l'exigence éthique. On a la substantifique moelle de notre civilisation judéo-chrétienne, etc. D'autres diraient peut-être, il y a des choses sympas, mais bon, c'est quand même un peu d'un autre âge, hein. On voit mal la pertinence aujourd'hui. Et d'autres, par la grâce de Dieu, comprendraient que Jésus les appelle aujourd'hui à un changement radical de la vie et une relation personnelle avec lui. L'enseignement de Jésus, c'est pas une doctrine qu'on peut simplement ajouter à sa vision du monde, en retenant les choses qui nous plaisent et puis en faisant pas attention aux autres choses. L'apôtre Jean, dans son évangile, l'évangile de Jean au chapitre 6, nous rapporte ces paroles d'un autre apôtre, Pierre, qui a dit ceci à propos de Jésus. Enfin, en parlant à Jésus, il lui a dit « Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Si on n'a pas compris cela, si on n'a pas compris que l'enseignement de Jésus nous interpelle jusqu'au plus profond de notre être et ne nous permet pas, si on l'a bien compris, de continuer à vivre comme si de rien n'était, eh bien, c'est qu'on n'a pas compris l'essentiel, et c'est qu'on a construit sa maison sur le sable. Alors le sable, c'est quoi? Bah, le sable, je crois qu'on le voit tous les jours, hein, à vrai dire, autour de nous, en regardant la télé. On vit dans une situation dans une société du soupçon et de l'incertain. Tout est discutable, tout est contradictoire, rien n'est sûr. On ne sait plus ce qu'est le bien et le mal. Certains trouvent des choses formidables, d'autres s'indignent de ces mêmes choses, un mot très à la mode en ce moment. On ne sait pas si on est là par pur hasard ou s'il y a un sens à notre vie. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On est écrasé par une pression de la société à faire des choses, à produire, à marquer notre entourage, à être quelqu'un de remarquable, alors même qu'on nous entraîne dans une fuite en avant constante qui en fait repose sur une somme de contradictions irréconciliables. Alors on peut continuer à vivre sur ces illusions, ou bien on peut prêter attention à ce que Jésus nous dit sur qui il est et sur la façon dont nous pouvons connaître notre Créateur. L'enseignement de Jésus, c'est un peu comme la pilule rouge et la pilule bleue dans la célèbre scène de Matrix, si on peut avoir l'image. Alors, j'ai bien dit, c'est un peu comme, hein, ne poussons pas l'image trop loin. On peut choisir la pilule bleue, c'est celle de, je ne sais plus là trop laquelle est laquelle, mais bon, dans le film. Mais on peut choisir la pilule bleue, on va dire. On peut prêter une oreille à moitié attentive à ce que dit Jésus. Et là, tout va bien. On peut se laisser porter par la vague de ce monde pour le reste. Simplement dire, tiens, oui, c'est intéressant. Et puis continuer à vivre comme si de rien n'était. Mais le problème, c'est qu'au jour de la tempête, alors la tempête, que ce soit une épreuve vécue dans ce monde, ou bien que ce soit la tempête finale, quelque part, le jour où on aura à rendre compte de toute notre vie, eh bien, on n'aura plus rien pour nous. On aura vécu sa vie sur les sables mouvants, sans jamais vraiment comprendre qui nous sommes ou pourquoi nous vivons. Ou bien on peut choisir la pilule rouge, c'est-à-dire comprendre que lorsqu'on est face à face avec Jésus, ben on ne peut pas rester le même. Et on peut construire sa maison sur le roc de sa personne et de son enseignement. Donc si nous enracinons notre vie en celui qui est à la fois notre Créateur et notre Sauveur, nous savons que rien dans ce monde ne pourra nous arracher de sa présence. Et ça nous amène à mon dernier point qui sera aussi une brève conclusion. La relation avec Jésus, seule vraie sécurité. Alors est-ce qu'il faut prendre peur face aux paroles de Jésus dans ce texte? Est-ce que nous devons tous nous demander si nous n'allons pas avoir un jour une mauvaise surprise lorsque nous comparaîtrons devant Dieu? Mais je crois que la clé pour répondre à cette question, c'est de savoir si nous connaissons Jésus ou non. Parce qu'encore une fois, on peut avoir entendu parler de lui, on peut adhérer dans une certaine mesure à son enseignement. On peut même venir régulièrement à une rencontre comme celle-ci, on peut chanter des chants de louange à Dieu, on peut même prier en son nom, sans toutefois le connaître. Alors qu'est-ce que ça veut dire connaître Jésus? Je crois que ça implique tout d'abord que l'on croit en lui comme une personne vivante, pas comme un concept, pas comme un grand personnage historique, mais comme quelqu'un qui est vivant aujourd'hui, qui est le ressuscité. Et ce n'est pas une façon de parler, mais c'est la réalité. Et si on croit que Jésus est vivant aujourd'hui, alors on croit qu'on peut le connaître réellement et authentiquement. Ensuite, ça implique de reconnaître qui il est. Pas simplement, encore une fois, une autorité morale de l'histoire, pas simplement un grand prophète, mais celui que nous présente tout le Nouveau Testament, c'est-à-dire le Fils de Dieu, venu parmi les hommes pour être leur sauveur et leur Seigneur. Celui qui, existant de toute éternité auprès de Dieu, s'est fait chair, s'est fait homme, est venu à notre rencontre. Celui qui a accepté de subir à notre place la punition que méritent toutes nos fautes et toute notre orientation naturellement hostile à Dieu. La mort à la croix, et bien pire encore, la malédiction de Dieu qu'il a subie à notre place. Mais il s'agit aussi de reconnaître celui qui est ressorti de cette terrible épreuve vainqueur, déclaré roi légitime de tout l'univers. Si Jésus est bien celui qu'il affirme être, alors c'est en lui et en lui seul que peut se trouver le sens de notre vie et l'unique sécurité ultime dans ce monde qui est par ailleurs chaotique et incertain. Alors comment faire pour le connaître si on ne le connaît pas encore? Eh bien, puisqu'il est vivant, puisqu'il nous entend, on peut lui adresser simplement la parole, lui demander de venir dans notre vie. Et nous avons l'assurance qu'il le fera. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, n'hésitez pas à venir m'en parler ou à un des autres responsables de la RDS, à Mario ou à Paul. Et on sera heureux d'en parler avec vous. Jésus n'a jamais promis une vie facile à ses disciples. Il parle de tempêtes qui vont venir. Alors un jour, c'est vrai, nous allons découvrir avec une joie indescriptible le monde nouveau que Dieu s'apprête à révéler. Mais pour l'instant, nous vivons dans un monde qui est encore marqué par la rébellion, la désobéissance de l'homme. Et en fait, dans ce monde, on constate qu'on est à la fois coupable et victime. Mais Jésus nous appelle à ancrer nos vies dans sa vie, une vie qui a vaincu la mort, une vie que rien ne pourra plus remettre en question. Construire sa maison sur le roc, ça ne veut pas dire faire tout le bien possible pour nous efforcer d'être à la hauteur de Dieu, mais c'est plutôt comprendre que c'est Jésus qui a été à la hauteur à notre place et recevoir avec joie le pardon et la vie nouvelle qu'il nous offre. Alors ça va impliquer un coût, c'est sûr. Il va falloir accepter de vivre à contre-courant. Non pas un coût pour payer Dieu en retour, hein, bien sûr, mais simplement des conséquences sur notre vie. Il va falloir accepter de vivre à contre-courant. Il va falloir accepter de renoncer à ce qui était, entre guillemets, nos idoles. On va maintenant se lever le matin en se disant, non pas qu'on se lève avant tout pour son boulot, pour son argent ou même pour ses proches, mais en premier lieu pour Jésus, parce que nous lui avons confié notre vie tout entière. Et il serait tragique qu'il y ait certains parmi nous qui entendent régulièrement les paroles de Jésus, enseigner, commenter, méditer, mais qui passent à côté de l'essentiel et qui restent à l'état de sympathisants. Assurons-nous au contraire que nous avons compris que Jésus nous appelle à faire demi-tour et à recommencer à zéro avec lui. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous avons besoin que tu nous aides à recevoir les bras grands ouverts le don que tu nous donnes, le don de ta grâce. Pour beaucoup d'entre nous, nous l'avons déjà fait. Nous nous efforçons maintenant de vivre d'une façon qui te plaît et tu vois que nos efforts sont toujours insuffisants. Mais parce que Jésus nous a déjà réconciliés avec toi, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire pour que nous puissions nous approcher de toi sans crainte, eh bien nous avons l'assurance de ton pardon. Mais Père, nous voulons, justement parce que nous avons été pardonnés, vivre d'une façon qui te plaît, en te disant merci par notre façon de vivre. Seigneur, je voudrais te prier pour que tu sois avec chacun, chacune, ici présent ce soir. Que tu nous aides à vivre des vies qui te fassent plaisir. Et s'il y en a parmi nous qui n'ont pas encore reçu ce don, je te prie pour qu'ils puissent le faire sans tarder. Que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils puissent accueillir cette vie nouvelle que tu veux leur offrir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.